Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes aujourd'hui. L'occasion chez 7 milliards de s'interroger sur les violences sexuelles dans les campus. En France, aux États-Unis et ailleurs. Dans les campus les plus prestigieux d'ailleurs, la parole se libère et c'est parfois la stupéfaction. Dans des lieux de savoir, des lieux de débat, c'est encore trop souvent l'omerta pour protéger l'image des grandes écoles ou des universités. On va en discuter avec nos invités qui témoignent aussi maintenant d'une mobilisation réelle. Myriam Espinasse, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous dans le studio, en direct. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Vous-même, vous êtes étudiante, Myriam, dans une grande école de commerce. Et vous êtes bénévole en tant que vice-présidente de cet observatoire, ce qui déjà dit beaucoup du problème. Nous sommes aussi en ligne avec Nathalie Coulon, une universitaire. Bonjour Nathalie Coulon.
Bonjour Emmanuel, bonjour Myriam.
Vous êtes co-responsable de la cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel à l'Université de Lille et vous êtes aussi enseignante en psychologie. Vos fonctions là, de responsable de cellule, là aussi vous êtes bénévole, Nathalie, en un mot ?
Pas exactement, j'ai une petite décharge, mais il y a une grosse partie de bénévolat, effectivement.
Voilà, bah, vous voyez, on a déjà, rien qu'en vous présentant, présenté un peu les freins du sujet. Et chez vous, les voisines et les voisins, quelle est la situation ? Est-ce que les campus sont des lieux sûrs pour les étudiantes ? On attend vos appels sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler, surtout qu'en fin d'émission, on aura, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahim Aïdara à Bamako, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Je vous lis quelques commentaires sur le sujet des violences sexuelles dans les campus. Sanjay, sur Twitter, nous dit « Les grandes écoles en France sont des nids à agressions sexuelles dans une bulle remplie de testostérone où les femmes sont réduites à néant uniquement parce qu'elles ne sont pas des hommes. » Sanjay est un homme, hein, je vous le précise. Et puis écoutez aussi le témoignage de Mariama, étudiante au Gabon.
Un jour, un week-end, je reçois un message et tout. Voilà, rejoins-moi à tel endroit, à telle heure. Je me suis dit que c'était une personne qui s'était trompée. Du coup, le lundi, on avait une évaluation et l'évaluation dans sa matière s'est très bien passée pour moi. Sauf que quand les résultats sont sortis, je me suis retrouvée avec un zéro. Et quand j'ai décidé de faire une réclamation de ma copie, on ne l'a jamais retrouvée. Parce que le surveillant qui nous avait surveillés, je lui ai dit que j'ai rendu ma copie. Je suis même la première qui a terminé, j'ai déposé ma copie en premier. Ça ne s'est pas arrêté, j'ai dû passer en rattrapage, ça ne me posait pas de problème parce que je m'en sortais plutôt bien. Mais avant de passer en rattrapage, je l'ai vu, il m'a dit « Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message ?» Je lui ai dit « Mais comment ça, à votre message ?» Je lui ai dit « Mais je t'ai laissé un message, tu ne m'as pas répondu, tu ne peux pas venir à mon rendez-vous, tu te fous de moi ou quoi ?» Il m'a serré le bras, je voulais fuir, je voulais crier, je voulais faire tellement de choses en même temps, mais je ne pouvais pas. Et il m'a dit « La prochaine fois que je te fais un message ou que je t'appelle, ne tente pas de fuir ou ne tente pas de jouer avec moi parce que je suis très bien placée dans cette école et je peux te mener la vie dure. » Comme je l'ai toujours dit, ce sont nos camarades les plus proches qui nous vendent pour des bières. Très souvent, il y a des enseignants qui vont aller vers eux. « Ah oui, moi, je veux le numéro de cette chaudasse. » Ça, ce sont des propos que j'ai eu à entendre me concernant. Il faut savoir que je suis digne, j'obtiens mes notes par mon travail. C'est déjà assez compliqué de mener des études. S'il faut encore se taper un individu qui ne veut pas nous laisser tranquilles, écoutez, c'est pas évident.
Et puis écoutez aussi le témoignage de Françoise à Yaoundé, au Cameroun. Son prénom, sa voix ont été modifiées à sa demande. Elle a posté son témoignage également sur notre compte WhatsApp. Écoutez-la.
Un jour, je me suis retrouvée dans le bureau d'un de mes patrons, mon enseignant, quoi. Porte fermée derrière moi, tous les deux. Et j'étais restée debout, lui aussi, il était resté debout. Je venais parce que j'avais un stage qui n'avait pas été validé. Il fallait que je montre mon carnet de stage pour dire que oui, en fait, j'avais fait le stage. Bref, j'étais en situation un peu inconfortable. Il s'est rapproché très près, genre comme si nos bouches devaient se toucher, quoi. Je veux dire, il voulait m'embrasser. Sans qu'il y ait eu de paroles posées avant, j'ai reculé et puis j'ai dit non, non. Il m'avait congédié parce qu'il y avait un collègue à lui qui était venu frapper à la porte. Et c'était une porte qui ne s'ouvrait pas de l'extérieur, elle ne s'ouvrait que de l'intérieur. Et après, il a fallu que je revienne avec un dossier, tout Bref, il a fallu que je m'excuse de quelque chose que je ne comprenais pas. Mais en fait, j'avais peur de représailles, que mes notes empâtissent ou qu'ils me bloquent mon stage ou que ma formation prenne un coup. Et jusqu'à ce que je finisse ma formation, je pense que cet enseignant-là, s'il pouvait me coller, il m'aurait collé.
Voilà le combat des étudiantes sur le continent africain. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Aux États-Unis aussi, même si le problème se pose un peu différemment. Écoutez le témoignage de cette ancienne étudiante américaine, Chanel Miller, 29 ans aujourd'hui, avec son livre « J'ai un nom ». Elle est devenue le symbole d'une génération de femmes qui ne veulent plus se taire. Notre reporter Charlie Dupio a rencontré Chanel Miller. Elle avait 22 ans cette nuit-là, sur le campus de Stanford en Californie, l'une des plus prestigieuses universités américaines.
So on the night of January 17th, 2015.
Le soir du 17 janvier 2015, je suis allée à une fête dans une fraternité à Stanford avec ma petite sœur et ses amis. Moi-même, j'étais déjà diplômée d'une autre université, donc je savais que je serais la plus âgée à cette soirée. Quand je suis allée à cette fête ce soir-là, il n'y avait rien dans mon esprit qui pouvait me laisser imaginer que j'allais y être en danger. Je me souviens avoir bu de la bière bon marché. Et de cette soirée, j'ai plutôt un bon souvenir, un souvenir joyeux, jusqu'à ce que tout devienne noir.
So my memory is that I woke up in this really bright white hallway.
Je me souviens m'être réveillée dans ce couloir tout blanc, brillant. J'ai remarqué du sang séché et des pansements sur le dos de mes mains. Je portais un pantalon d'hôpital, tout vert. Je me suis demandé d'où venait ce pantalon et puis j'ai vu deux hommes appuyés contre le mur. L'un était officier de police, l'autre était un doyen des étudiants de Stanford. Ils m'ont dit « Nous avons des raisons de croire que vous avez été agressé sexuellement ». Je les ai trouvés ridicules, je leur ai demandé si je pouvais rentrer chez moi et puis j'ai demandé à aller aux toilettes et là, j'ai découvert que mes cheveux étaient couverts d'aiguilles de pin qui me grattaient le cou. Et je n'avais plus de culotte. Quelque chose à ce moment-là a basculé dans ma tête. C'était comme une sombre créature dans de l'eau noire, une créature qui nage. Vous savez que quelque chose menace sous la surface, mais vous ne connaissez ni son nom, ni sa forme.
Et finalement, cette vérité vous est apparue dans les jours, dans les semaines qui ont suivi.
Alors, ce matin-là, à l'hôpital, on m'a dit que cela serait mieux pour moi d'avoir ce qu'on appelle un kit de prise en charge des victimes de viol et de faire un examen. J'ai dit d'accord, que j'allais le faire pour être sûre. C'était un test invasif de plusieurs heures, mais je leur ai fait confiance. J'ai donc fait l'examen et la seule chose qu'on m'a dite à ce moment-là, c'est que quelqu'un s'était comporté de manière étrange à la soirée et qu'il avait été arrêté par la police. 10 jours après, je suis tombée sur plusieurs articles sur Internet. Ils disaient qu'une femme inconsciente, ivre, à moitié nue, avait été trouvée derrière la benne à ordures près de la maison de la fraternité. Un homme avait été trouvé au-dessus d'elle. Et puis, deux étudiants suédois sont passés par là à vélo. Ils ont vu ce qui se passait et ils ont confronté mon agresseur qui est parti en courant. Alors ils m'ont couru après, ils l'ont plaqué au sol et ils se sont assis sur lui jusqu'à ce que la police arrive pour m'aider.
Donc ce jour-là, après que vous ayez été prise en charge par la police et puis à l'hôpital, on vous appelle, on vous demande est-ce que vous voulez porter plainte. Après réflexion, vous répondez oui et vous écrivez dans votre livre « J'ignorais que l'argent pouvait ouvrir en grand les portes des cellules. J'ignorais que si une femme était ivre au moment de l'agression, elle ne serait pas prise au sérieux. J'ignorais que si l'homme était ivre au moment de l'agression, les gens compatiraient avec lui. J'ignorais que ma perte de mémoire lui serait bénéfique.
Yeah, » so...
Oui, au début, je me suis dit que ce serait vraiment facile parce qu'il avait été pris sur le fait. Et puis, il s'était enfui, comme s'il avouait sa culpabilité. Je n'avais pas anticipé qu'il y aurait beaucoup de choses qu'il pourrait utiliser contre moi, et notamment parce que je n'avais pas de souvenir de ce moment-là. Par exemple, j'étais en couple à cette époque, et pendant le procès, on m'a demandé si cette relation était sérieuse. On m'a demandé combien de fois auparavant j'avais déjà perdu connaissance à cause de l'alcool, si je faisais souvent la fête quand j'étais à l'université. Comme si quoi que ce soit dans mon passé pouvait justifier les actions de cet homme. Quand on est jeune, on fait des erreurs, on cherche sa voie, On devrait avoir le droit de faire ses erreurs. Et même si ce n'est pas recommandé d'être ivre, notre seule punition, ça devrait être une gueule de bois et pas un viol.
Alors, votre agresseur, que vous ne connaissiez pas jusque-là, se trouve ne pas être n'importe qui. C'était à l'époque un nageur qui avait réussi à emmener son équipe jusqu'à des championnats de l'Ohio. Il avait 19 ans. Il était étudiant en première année.
Yeah, he was an all-American athlete.
Oui, c'était un athlète typiquement américain. Il est blond, aux yeux bleus. Dans les médias, on l'a même décrit en disant qu'il avait un visage d'ange. Alors comment pouvait-il être un criminel? On s'attendait donc à une peine de 6 à 14 ans dans une prison fédérale. Et il a été condamné à 6 mois, dans une prison du comté. Et pour chaque jour de bon comportement en prison, la sentence initiale diminue d'un jour. Donc il est sorti après 3 mois de prison. Et il faut se rendre compte qu'on a passé un an et demi au tribunal juste pour en arriver à ça.
Comment a réagi l'université de Stanford après tout ce procès, pendant le procès?
Stanford ne m'a jamais contacté. On ne m'a jamais proposé de soutien. Et c'était difficile car le tribunal était près du campus. Donc j'ai mené ce combat seule, sans eux.
Entre septembre 2018 et septembre 2019, l'université de Stanford a enregistré 279 incidents de violences sexuelles, harcèlement et discrimination. Et c'était plus de 58% fois plus que l'année d'avant. Alors comment, selon vous, on peut expliquer tous ces incidents d'ordre sexuel?
Il n'y a eu aucun réel changement. Et par exemple, l'une des choses que j'ai demandé après mon agression, c'était d'installer un éclairage dans cette zone sombre près de la fraternité. Et cela m'a pris de nombreuses années pour arriver à l'obtenir. Pour moi, les agressions sexuelles sont tellement normalisées dans notre culture. Je pense aussi que ces universités, ces institutions, accordent malheureusement beaucoup d'importance à leur image de marque et à comment la préserver. Il faut que ces universités comprennent qu'à long terme, tout cela va finir par entacher leur nom.
L'histoire de Chanel Miller vient de sortir en France. J'ai un nom, elle est publiée aux éditions du Cherche Midi. Voilà, on a entendu, Myriam Espinas, des témoignages, des situations très différentes sur le continent africain, aux États-Unis. Mais à chaque fois, il y a un système qui protège les agresseurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, les témoignages qu'on a entendus?
Déjà, je voudrais dire vraiment merci aux victimes d'avoir pris la parole, de partager ce qu'elles ont vécu. Elles sont très courageuses, ce sont des lanceuses d'alerte, je les remercie. C'est vrai qu'on reconnaît toujours le même système d'impunité, le victim blaming. On pose toujours les mêmes questions aux victimes. Est-ce que vous avez l'habitude de consommer de l'alcool? Alors que l'alcool est une cause aggravante pour l'auteur des faits, bien sûr, de violence. Et on reconnaît toujours aussi le fait que ce soit entre étudiants. En tout cas, je parle pour les États-Unis et le témoignage de Chanel Miller. C'est vrai qu'il y a cette différence, en tout cas, entre la France et le continent africain, où les violences sont vraiment beaucoup plus perpétrées entre étudiants.
Oui. Alors que sur le continent africain, il y a cet enjeu de pouvoir d'un professeur sur les étudiantes. Quelle est l'ampleur du phénomène en France à l'heure actuelle, Myriam Espinas? Qu'est-ce que vous avez comme chiffre avec l'Observatoire?
Alors avec l'Observatoire, on a conduit la première enquête de grande ampleur, donc avec plus de 10 000 répondants, étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur. Les constats principaux, ils sont de deux ordres. D'une part, il y a une réelle méconnaissance sur le sujet. On voit qu'un étudiant sur cinq ne sait pas faire la différence entre une agression sexuelle et un viol, ce qui en dit très long. Et deuxièmement, en ce qui concerne les violences observées et subies, on a quand même une étudiante sur 10 victime d'agression sexuelle et une étudiante sur 20 qui a été victime de viol. Donc c'est très important juste de souligner que ces violences, elles sont présentes dans tout l'enseignement supérieur, université, établissement privé, et qu'elles n'épargnent personne, tout comme on le voit dans la société, les violences sont un continuum et elles n'épargnent pas, elles ne s'arrêtent pas à la porte de nos écoles.
Ces chiffres seraient largement sous-évalués ou pas ?
Oui, en tout cas, c'est ce qu'on pense, bien sûr. On pense que du fait qu'il y a une méconnaissance sur le sujet, les étudiants et les étudiantes ont moins de capacité à identifier les violences, donc elles les déclarent moins.
Les lieux d'enseignement supérieur, est-ce que vous pensez que ça favorise les agressions sexuelles ou pas, dans le fond?
Je pense que les violences sont présentes dans toute la société et que l'enseignement supérieur a cette spécificité d'être un lieu dans lequel, notamment quand il y a des campus, où il y a un entre-soi, où il y a une volonté de s'intégrer. Et on le voit très bien dans les causes qui sont retenues par les étudiants pour expliquer les violences subies. Il y a vraiment toujours cette notion du sentiment de « il faut s'intégrer », il y a une pression.
Il y a aussi la direction dans les grandes écoles, notamment, qui organise via ses campus une vie étudiante intense. Hein. Ça fait partie aussi de la marque de fabrique des grandes écoles, sans penser à mal. Sauf que le revers de la médaille, ce sont des soirées extrêmement alcoolisées, aussi bien d'ailleurs pour les agresseurs que pour les victimes. Hein.
Bien sûr. Et c'est sûr, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la zone rouge, qui correspond aux 3 premiers mois d'intégration pour les primo-arrivants, donc les premières années dans l'enseignement supérieur, qui correspond à cette zone donc jusqu'en novembre où il y a le plus de violences sexistes et sexuelles subies.
Comment vous expliquez le silence dans ces campus sur le sujet? Alors, vous nous disiez déjà la méconnaissance, les étudiants et les étudiantes qui font mal la distinction entre agression sexuelle et viol. Hein. On va peut-être redire que le viol, il y a pénétration, hein, ouais. Avec un objet, avec le sexe de l'autre. Mais en dehors de cette méconnaissance, est-ce qu'il y a un système qui fait perdurer, qui permet l'omerta, notamment dans les grandes écoles? Je vous pose la question à vous parce que vous êtes étudiante dans une grande école et que vous connaissez peut-être un peu mieux ce système-là par rapport à l'université.
Alors, je vais juste m'exprimer déjà sur, bien sûr, ce qui se passe en France. Je pense qu'il y a aussi on parle beaucoup de la méconnaissance des étudiants, c'est ce qui a été remonté dans notre enquête, mais en fait, il y a une méconnaissance des établissements, du fait qu'ils ne connaissent pas donc la loi, puisque bien sûr il y a un cadre légal en France qui encadre tout ça. Ils ne connaissent pas le code de l'éducation, ils ne connaissent pas le code de procédure pénale, ils ne savent pas, ils ne sont pas outillés, ou du moins ils ne souhaitent pas s'outiller. Et donc ça, c'est un réel problème, puisque ça crée une situation dans laquelle il y a une impunité réelle, c'est-à-dire pas de conséquences pour les auteurs de violences malgré les signalements des victimes.
Ça, c'est pour le silence et la méconnaissance du côté des autorités.
Vous voulez dire des autorités...
Pour expliquer le silence aussi. Le fait que les victimes parlent peu.
Au niveau de l'autorité, on parle beaucoup de la culture du viol. Donc du fait qu'il y a quand même... On n'est pas sur la définition de la culture du viol, bien sûr. C'est le fait qu'il y ait des comportements et des propos qui minimisent le viol dans notre société. L'enseignement supérieur, on voit que les étudiants et les étudiantes, quand elles vont porter plainte, et elles sont très courageuses quand elles le font, tout comme les autres victimes, notamment de violences conjugales, on voit qu'elles sont très mal reçues dans les commissariats pour le dépôt de plainte. Donc je pense que ça favorise vraiment ce silence et la perpétuation des violences.
Il y a eu une récente enquête sur l'ampleur des viols et agressions sexuelles à Centrale Supélec, une grande école d'ingénieurs. La direction s'est déclarée stupéfaite parce qu'elle ne recevait pas de plainte. Comment expliquer ça?
Alors, je pense que la première chose à faire, et on peut en ce sens féliciter Centrale Supélec de l'avoir fait, c'est d'ouvrir la brèche pour parler, c'est de l'organiser, cette prise de parole. C'est-à-dire qu'il y a des signalements qui sont faits, mais en fait, ils sont tellement peu organisés au sein de l'administration. Donc, il y a une étudiante qui va parler à un professeur, une étudiante qui va parler à un membre de la cellule d'écoute, à d'autres personnes, à ses amis. Et en fait, tout ça n'est pas organisé. Donc, il n'y a pas de remontée du signalement. Exactement. Il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de formation.
Nathalie Coulon, vous travaillez dans cette cellule d'écoute à l'université de Lille. Est-ce que dans cette université, il y a eu davantage de prise de conscience de l'ampleur du phénomène depuis plusieurs années?
Alors, je dirais que ça marche tout doucement, par étapes. Quand la cellule s'est créée, c'était sur le campus de Pont-de-Bois, à l'université Lille 3. Ce que j'ai remarqué, c'est au fil des ans, le recours à la cellule qui devenait plus systématique. Donc maintenant qu'on est dans une très grande université qui a regroupé 3 universités, ce que je constate, c'est que sur les campus où on avait l'habitude de recourir à une cellule, on a encore cette habitude, mais je n'ai pas de demande venant d'une université où il n'y avait pas de cellule. Donc en fait, le temps que les cellules se fassent connaître, c'est assez lent. Et même en faisant plein d'initiatives de prévention, de diffusion de flyers sur l'existence de la cellule et notamment de la maison de la médiation qui permet aussi de faire remonter les faits, on voit que les choses avancent, mais tout doucement. Mmh.
Mais en même temps, comment ça peut être si lent avec la fulgurance des réseaux sociaux? On voit le débat et la polémique qu'il y a eu avec Sciences Sport, hein, et la parole qui s'est largement déverrouillée du côté des étudiantes. Comment ça peut être si lent ensuite sur le terrain au niveau des cellules d'écoute et des campus universitaires, Nathalie Coulon? Comment vous expliquez ça?
Alors déjà, il y a la peur des représailles qui était évoquée tout à l'heure dans l'un des témoignages. On a cette idée d'un esprit de corps, que de toute façon on va mettre le couvercle sur les affaires, que la parole d'un enseignant vaut plus que celle d'une étudiante. Il y a des méfiances aussi à l'égard du fonctionnement des cellules. Quand nous avons commencé, j'ai su par l'association Clash que des personnes les avaient contactées pour savoir si nous étions fiables. Donc ça, c'est très important aussi. On a peur aussi de nous rapporter des faits et il y a une sorte de pression pour faire comprendre les situations. Les personnes, elles ne savent pas trop par quel bout prendre les choses. Elles ont peur des discriminations, ce qui était évoqué aussi tout à l'heure, l'attaque en diffamation. Donc nous, on est là justement pour dire qu'il faut venir en parler.
Notamment dans le cas de professeurs qui pourraient être accusés d'agression sexuelle, c'est ce que vous sembliez mentionner pas forcément?
Plutôt pour le harcèlement sexuel. Si vous voulez, il y a des choses qui se passent dans le cadre d'encadrement de thèse, mais pas seulement, c'est sur les lieux de stage, ça peut être aussi dans la négociation d'un stage. Récemment, il y a une étudiante qui a témoigné dans ce sens en disant que voilà, le prof lui avait dit « Oh, puis vous pourriez coucher avec moi », et elle a fait silence et elle a dit « Non, non, je rigole », mais dans un autre entretien, elle a recommencé. Donc, vous voyez, il y a cette possibilité du chantage.
Oui, le chantage sexuel, qui ne conduit pas forcément à l'agression sexuelle, mais qui dit quand même beaucoup de choses d'un système, et comme quoi le continent africain n'est pas le seul dans cette situation-là, dans cette relation parfois trouble entre les étudiants et les enseignants. Et sinon, bien sûr, vous nous le disiez, Myriam Espinas, la majorité des agressions sexuelles et des viols qui sont à l'heure actuelle dénoncés, ça se passe entre étudiants, hein, pour ce qui est des campus universitaires ou des grandes écoles. Comment en finir avec les violences sexuelles sur les campus? Appelez-nous, notre compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. You tell me hold your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move. C'est Lady Gaga chez 7 milliards de voisins sur RFI, une chanson qui était sortie en 2015 en soutien aux victimes de violences sexuelles sur les campus universitaires américains. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message de Tammy. En plus des violences physiques, du harcèlement, il y a cette violence psychologique qui ne dit pas son nom. À l'université au Kenya, à Nairobi, un prof s'acharnait sur moi en me donnant des mauvaises notes alors que j'ai toujours été brillante. Et à chaque fois que je demandais qu'un autre professeur me corrige, bien, comme par hasard, ma copie se perdait. J'ai compris plus tard, en discutant avec des camarades, que c'était pour me pousser à négocier, le mot est écrit entre guillemets, entendre par là avoir des relations sexuelles avec lui pour qu'il me note à ma juste valeur. Je n'ai pas cédé à son chantage, mais malheureusement, beaucoup de filles en sont victimes sur les campus. Il faudrait mettre en place dans toutes les universités des espaces où elles peuvent dénoncer ces pratiques en toute sécurité, être écoutées, accompagnées en toute bienveillance et surtout que ces professeurs soient sanctionnés. Voilà, elle a bien résumé la problématique et ça s'applique évidemment à des agresseurs étudiants, pouvoir parler, être écoutés, qu'il y ait des sanctions et être accompagnés aussi sur le plan judiciaire. Et écoutez aussi le témoignage de Toraï à Brazzaville au Congo.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisines et les voisins. C'est Toraï depuis le Congo Brazzaville. Ça concerne ma petite sœur Elodie parce qu'elle a souhaité que je lève ma voix à sa place. Alors, Elodie était dans un campus et elle était plusieurs fois victime d'une violence sexuelle parce que les plus anciens qui avaient donc la gestion du campus souhaitaient qu'elle leur partage son corps afin de bénéficier de quelques privilèges, de quelques avantages et surtout de quelques faveurs. C'est une fille intègre, elle a donc refusé et cela lui a mis dans une situation de calvaire. Elle était soulagée par sa copine. Alors, on lui a refusé la place au campus simplement parce qu'elle avait refusé de céder son corps. Elle a donc jeté l'éponge et du coup, elle est obligée de se lancer dans le commerce. Vous voyez ?
Voilà, des étudiantes qui sont quasiment finalement expulsées de leur université d'une certaine manière hein, parce qu'elles refusent de céder à des avances sexuelles. Dans le cas de Elodie, la petite sœur de Toraï, des avances sexuelles par les étudiants du campus. On est en ligne avec une auditrice qui est à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Bonjour Rennes.
Bonjour.
Rennes, vous avez été agressée sexuellement par un professeur et vous avez dû quitter l'université. C'était il y a combien de temps à peu près, Rennes ? Je sais que vous restez anonyme, hein, bien évidemment, c'est un prénom d'emprunt.
Oui, oui. Il y a un an, ça s'est passé en 2020. Mmh. Voilà. Je venais d'arriver en master 1 et mon professeur principal m'a fait rappel, m'a convoqué dans son bureau. Et m'a dit clairement que je n'ai pas le choix qui sera mon encadreur.
Oui.
Et que je suis sa petite amie, que je le veuille ou non.
Oui.
Depuis lors, ça n'allait pas. Il me convoquait chaque fois dans son bureau, essayant de m'embrasser, me caresser tout et tout. Mmh. Étant donné que c'est lui mon encadreur, je ne pourrais pas soutenir tant que je ne cède pas ses avances. Donc j'ai dû arrêter les cours. Et là, je suis agent commercial maintenant.
Ça veut dire que vous avez dû arrêter vos études sans jamais pouvoir vous confier à qui que ce soit sur le motif, l'arrêt de vos études, Rennes ?
Si, je me suis confiée à des amis et même à d'autres professeurs, mais personne n'a pu lever le dos et me disait clairement que non, ce n'est pas possible, étant donné que c'est un professeur titulaire et pasteur. Donc, personne n'a voulu me croire.
On ne vous a pas cru. Et donc, impossible également de le dénoncer aux autorités de l'université, je présume ?
Impossible.
Merci Rennes, en tout cas, de nous avoir appelé et d'avoir eu le courage de témoigner, parce que tout commence par là. Vous nous le disiez tout à l'heure, hein, Myriam Espinas. On va donner aussi la parole à Yasmine, qui est à Abidjan. Bonjour Yasmine.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'un comité de délégués de filles de l'université Oufouette Boigny à Cocody. Vous considérez comme militante pour dénoncer les agressions sexuelles ?
Mm-hmm.
Yasmine,
oui, oui.
On vous écoute. Allez-y,
oui.
Yasmine.
Ah, d'accord. Ok, merci bien. Et comme le disait tantôt la sœur qui vient de passer, effectivement, à l'université, beaucoup de jeunes filles sont victimes d'agressions sexuelles au niveau des professeurs, comme au niveau aussi des étudiants. Mais c'est beaucoup récurrent au niveau des professeurs, parce que les professeurs ont eu tendance à harceler les filles. Et lorsque tu refuses, tu te vois toi abandonner les études.
Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Yasmine. Est-ce que vous pouvez vous mettre très très rapidement dans un endroit calme ? Il nous reste quelques secondes. Allez-y, Yasmine. Mmh.
D'accord. Donc, je disais, lorsque tu refuses, soit tu ne peux plus continuer les études. Et c'est vraiment désolant.
C'est-à-dire que vous connaissez autour de vous des étudiantes qui ont dû arrêter leurs études également dans le même cas que Rennes pour ces motifs-là.
Oui.
Il y a 2 ans, vous avez fait une marche à l'université pour dénoncer ces violences contre les étudiantes. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement?
Bon, on n'a pas eu de suite favorable, si je peux dire ainsi. On est toujours sur le coup, on espère que nos voix vont toujours porter. Hein, parce que c'est ça, lorsqu'on a fait la marche, on a été soutenu par l'université et tout ça. Mais bon, bien après, il y a eu un relâchement. Voilà, donc on est encore dans la marche cette année encore également, on veut relancer. Pour voir ce qu'encore ça va donner.
Vous dénoncez également un manque de chambres étudiantes, hein, puisqu'il y a pas mal d'étudiantes qui sont obligées de dormir dans les couloirs du campus et donc qui sont extrêmement vulnérables aux agressions sexuelles. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Alors finalement, aujourd'hui, si on reprend le cas de la France, de nombreux pays européens, quelles sont les urgences pour qu'on avance plus vite, puisque une fois qu'on a repéré, qu'on a la parole des étudiantes, Qu'est-ce qui bloque pour que les sujets avancent, aussi bien en interne, dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités, que ça aboutisse à des sanctions disciplinaires, par exemple, ou que cela aboutisse en justice? Myriam Espinas.
Premièrement, je pense qu'il faut commencer par appliquer l'existant. Il faut que les établissements se saisissent des procédures disciplinaires. Il faut que les dispositifs de signalement, d'accompagnement des victimes soient mis en place. Je rappelle qu'il n'y a que 45% des cellules d'aide et d'écoute qui sont mises en place, alors que c'est une obligation. Il faut qu'il y ait de la formation obligatoire pour les étudiants, mais aussi pour le corps administratif et le corps enseignant. Il faut qu'il y ait de l'information aussi à destination des étudiants sur ce qui existe dans les établissements et aussi ce qui existe à l'extérieur des établissements. Je pense aux autres associations notamment, puisqu'on sait qu'il y a 25% des répondants, en tout cas de notre enquête, qui nous ont dit ne pas savoir s'il existait un dispositif dans leur établissement. Ensuite, il faut diagnostiquer, il faut poser des chiffres pour poser un baromètre, voir l'évolution des VSS dans l'enseignement supérieur.
Des violences sexuelles.
Exactement, oui, des violences sexistes et sexuelles. Il faut professionnaliser, il faut qu'il y ait un budget dédié, il faut qu'il y ait des personnes nommées à temps plein sur ces postes et qu'il y ait les compétences. Parce que tout le monde ne peut pas s'improviser professionnel, expert de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et surtout, je dois dire qu'il faudrait que le ministère de l'Enseignement supérieur harmonise les obligations entre les universités et les établissements privés de l'enseignement supérieur.
Ouais. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé le mois dernier un plan d'action, 7 millions d'euros sur 5 ans. On ne peut vraiment pas dire que ce soit rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Espinas?
Alors déjà, je dois saluer le travail qui a été fait par le ministère, puisque ce plan a été co-construit avec de nombreuses associations dont nous avons fait partie. Il y a 24 mesures, il y a plusieurs axes de travail, ce sont des bons axes de travail. En revanche, sur le budget, je dirais que c'est plus mitigé ce qu'on en pense à l'Observatoire, puisque pour rappel, il y a en effet 7 millions, mais sur 5 ans. Et le budget au PLF 2022 pour l'enseignement supérieur, c'est 24,6 milliards. Ouais. Donc on voit que 1,5 million, c'est peu pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 3 choses, en tout cas, qu'on aimerait voir évoluer dans ce plan. D'une part, c'est que une fois encore, tout, ce ne soit pas que les universités, mais tous les établissements qui soient concernés. On se pose aussi la question de l'évaluation, de comment est-ce qu'il va y avoir un suivi de la mise en œuvre. Et surtout, on aimerait qu'il y ait une modification de la procédure disciplinaire pour qu'elle prenne en compte les victimes.
Nathalie Coulon, concernant le plan du ministère de l'Enseignement supérieur, qui dit vouloir renforcer les dispositifs de signalement avec des cellules d'appui juridique, mais comment contraindre finalement les directions d'université à effectivement mettre en place ces cellules, pouvoir informer les étudiantes que ces cellules existent, qu'il y ait de l'affichage et que ces cellules ne soient pas des coquilles vides?
Bah, écoutez, il y a un décret qui est paru pour la mise en place de procédures de signalement, donc il y a des obligations. Comme le disait Myriam, on a déjà beaucoup d'outils. Et il y a des outils qui existaient déjà depuis longtemps. Donc en fait, c'est la volonté politique qui va compter maintenant. Et franchement, par rapport au budget, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense que c'est pas suffisant. Et comment dire, par rapport à ce qui existe, donc nous on voit que le fait de devoir signaler soi-même à travers un dispositif de signalement, c'est engageant par rapport à la question qui était posée tout à l'heure des freins. C'est-à-dire que non seulement la victime a subi des faits, mais en plus elle a une charge de travail en plus pour se défendre. Donc moi je pense qu'il est aussi important de faire de la prévention massive parce que je vois là, par exemple, des étudiants que j'ai reçus récemment qui me disent oui, mais j'ai pas trop le temps là pour rédiger mon témoignage.
Mais oui, parce qu'elles ont leurs examens.
Voilà. Oui. Et donc, c'est en fait, c'est financiers. Super important de protéger le parcours universitaire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais changer la culture. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, le projet de former massivement les personnels, c'est intéressant. Mais il faut voir concrètement comment ça pourra se mettre en place.
Changer la culture. Depuis le début, on parle beaucoup des étudiantes. D'abord, il faut préciser qu'il y a aussi des étudiants qui peuvent être agressés sexuellement. Comment changer les mentalités chez les agresseurs potentiels, Myriam Espinas? Parce que, par exemple, le plan du ministère de l'Enseignement supérieur, il prévoit une formation en ligne pour les étudiants. On se doute que ce sont massivement les filles qui vont suivre cette formation en ligne et que, voilà, ça peut être utile pour des victimes potentielles, mais il faudrait aussi que ça soit suivi par des agresseurs potentiels, non ?
Et bien sûr, c'est l'un des reproches qui est fait à ce plan d'action, c'est qu'il faut que la formation soit obligatoire pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Tout le monde doit être au courant qu'il y a une tolérance zéro et qu'il y ait surtout ensuite une effectivité de cette tolérance zéro, c'est-à-dire des répercussions quand il y a des signalements.
Ouais. Alors par exemple, des examens obligatoires sur les connaissances autour des violences sexistes et sexuelles, c'est une piste qui pourrait être intéressante?
Bien sûr, c'est une piste que nous avons avancée au ministère de l'Enseignement supérieur. Tout comme il y a d'ailleurs des examens pour le code de la route, en fait, qu'il y ait la même chose pour les violences sexistes et sexuelles.
Et pourquoi ça n'aboutit pas, par exemple, ça ?
Parce qu'il semblerait que ce soit qu'il y ait une difficulté au niveau des accréditations pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif. Mais j'imagine qu'on peut aussi le mettre en place par des moyens détournés, cette formation obligatoire.
Aujourd'hui, les grandes écoles, comme il y a de gros enjeux financiers, notamment sur les grandes écoles de commerce, dont les frais de scolarité sont exorbitants, est-ce que vous avez l'impression qu'elles auraient tendance maintenant à mieux se saisir plus rapidement pour des raisons d'image, de communication, de marketing, de ce problème-là ou pas ?
Je dirais que les quelques affaires médiatiques qu'on a vues paraître récemment nous montrent que oui, certains établissements se saisissent de la question, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité et on ne peut pas dire que c'est la norme. Il faut que ce soit tous les établissements, toutes les grandes écoles de commerce qui le fassent.
Par exemple, vous, dans votre école, je sais que vous ne voulez pas citer votre école, mais votre école est au courant de votre militantisme puisque vous tenez ces fonctions à titre de militante, ce qui d'ailleurs n'est pas normal finalement.
Oui, bien sûr, au niveau de mon établissement, et donc j'invite, comme on le dit souvent à l'Observatoire, quand on parle avec des étudiants, des étudiantes et des associations, se mobiliser de l'intérieur, à s'organiser quand on le peut, quand on a l'espace mental, le temps pour le faire, d'essayer de mobiliser à l'intérieur son établissement.
Et de votre côté, Nathalie Coulon, à l'Université de Lille, qu'est-ce qui est organisé pour changer les mentalités, pour favoriser le débat aussi entre les étudiants et les étudiantes ?
Il y a plein d'actions. Par exemple, aujourd'hui, on a des actions via des colloques pour réfléchir à la manière dont se diffuse la culture du viol, par exemple, à travers des supports destinés à la jeunesse. Moi, j'ai participé à plein d'actions comme des cafés, des rencontres avec les étudiants et des associations militantes, dont Clash. On a des expositions. Il y a des films là, qui vont passer sur différents supports. Voilà, toute l'année, il faut agir pour amener le sujet. Il n'y a pas que le 25 novembre et le 8 mars. C'est toute l'année qu'il faut parler de ça.
Mais sur le terrain, vous avez le sentiment que les choses bougent ?
Moi, personnellement, je trouve qu'on va dans le bon sens. On a une mobilisation aussi maintenant d'équipes enseignantes. J'ai vu ça l'année dernière après avoir accompagné une équipe. Ils se sont engagés auprès des étudiants en diffusant le guide de l'association Clash qui donne des idées pour se défendre et puis beaucoup d'informations sur les procédures. Voilà, donc chacun doit s'emparer à son niveau de la question. Mais il faut faire attention aussi à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Comme le disait Myriam, on ne peut pas s'improviser non plus dans l'accompagnement.
Myriam Espinas, au niveau des sanctions disciplinaires, ça ne demande pas des millions quand même. comment se fait-il que les chiffres soient encore ridiculement petits, même alors qu'il y a eu MeToo, il y a eu toutes ces polémiques sur les réseaux sociaux, ça n'avance pas sur le plan des sanctions disciplinaires. Est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'enquêter, d'arriver à des certitudes ?
Sur la procédure disciplinaire, donc nous, on a fait une enquête flash avec, on a recueilli 400 témoignages de victimes qui ont saisi la procédure disciplinaire. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la procédure disciplinaire aujourd'hui fonctionne de la même manière si c'est une fraude à l'examen que si c'est un viol. Or, je pense qu'on peut communément se dire aujourd'hui que les violences sexistes et sexuelles ont des spécificités. Je pense notamment, par exemple, à l'amnésie traumatique, le fait de ne pas se souvenir des violences subies. Mais ça devrait être pris en compte.
Dans le cas d'un viol, de toute façon, c'est quelque chose qui doit aller en justice. Je parle d'agression sexuelle mineure qui, effectivement, aurait peu de chances d'accéder à la justice rapidement, mais qui pourrait déjà se régler en tant que sanction disciplinaire avec exclusion éventuelle, temporaire ou définitive de l'étudiant ou de l'agresseur en question.
Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une frilosité des procédures disciplinaires d'agir sur les cas de violences sexistes et sexuelles. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a bien sûr une indépendance de la procédure pénale et de la procédure disciplinaire et que la procédure disciplinaire est là pour agir vite et pour mettre en sécurité, grâce aux mesures conservatoires, les victimes. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas parce que justement, on est sur ce sujet des violences sexistes et sexuelles et il y a une peur parce que c'est dû à une méconnaissance des personnes qui composent la section disciplinaire qui ne sont pas formées à cette thématique.
Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur les violences sexuelles dans les campus. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et c'est bien sûr un sujet à suivre sur l'ensemble de nos programmes à RFI. Merci Myriam Espinasse, vice-présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Et merci Nathalie Coulon, co-responsable de la cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel à l'Université de Lille. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara à Bamako, un tout autre sujet, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Ce sera juste après Mutiny Drummer Queen Power chez 7 milliards. You would have us forget, you would have us make it easier. Have us regret, you would never say her name. You would have us forget how the mother's pressure freed the sons and daughters caught in torture chambers. Talk about it. Yeah, we've always been great for a long time now. But you always debate for a long time now. What a woman should make, what a woman should take. But you never asked a woman what a basic mistake. Naona chenye mimi sitadu ni kuagyu na mafala busy body like you. Wale wanafikiria sindiria ni weakness. Ni better ni speak less, my actions more witness. Keep saying not the right time. You keep telling us not the right time. You keep saying not the right time. You keep telling us not the right time. I'm my own fix, I'm my own fixer. Write my own script, write my own scripture. And I'm so sick, getting more sicker. See the whole mix, see the whole picture. Getting loud, getting louder. Getting loud, getting louder. Getting loud, getting louder. Getting loud, getting louder. Sisi ndiyo pow, watoto wa how, ndiyo sisi how. This time hatuchoki, this time hatogopi. Pesa hatukopi, tena hatusoti. Gumu kunishika kwanza jenga kasi vi. Mna pressure ya kumari bata tujiski. Mtabaki mukicheki, chinda mkidibeti. Kwenye ni nageti, pesa ya kibeti. Listen for the women who can be for us, who put the world. Who make it work for us? Listen for the women who can be for us. Who built the world for us? Who made it work for us? I'm my own fix. I'm my own fixer. Write my own script. Write my own scripture. And I'm so sick. Getting more sicker. See the whole mix. See the whole picture. Getting loud. Getting louder. Getting loud. Getting louder. Getting louder.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici. d'ici et d'ailleurs. On retrouve la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel.
Chaque semaine, nous écoutons vos conseils dans l'émission 7 milliards de voisins, mais bien sûr, on retrouve aussi tous ces conseils en chronique, en podcast sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, vous êtes psychologue à Bamako. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Ah, on entend souvent les anciennes générations dire que les jeunes se détournent des traditions familiales. C'est ce que vous entendez, vous, en tant que psychologue au Sahel. Alors, que se passe-t-il exactement ?
Alors, je pense que la première explication à donner, c'est dû au fait que les parents sont de plus en plus distants de leurs enfants. Et ils se mettent davantage dans des positionnement que je qualifierais de conflictuel avec ceux qui sont pourtant censés être leurs héritiers. Ce sont leurs enfants, ils sont censés être les héritiers ou les héritières quand ce sont les filles. Les familles sont aussi totalement dépassées par ce changement radical que l'on observe en termes de comportement des jeunes ou des adolescents et aussi leur précocité dans pas mal de choses. L'apparition, il est vrai, des réseaux sociaux, l'influence très agressive des pères, donc des copains, P-A-I-R-S, et la distanciation avec la famille élargie en sont aussi pour beaucoup, Emmanuel.
Donc, en somme, ils vivent leur vie.
Ils vivent leur vie. D'autre part, les jeunes trouvent aussi que leurs parents ne sont plus à la page. Ils sont démodés, comme ils disent. Ils sont parfois très conservateurs sur certaines choses qui n'ont plus lieu d'être en ce 21e siècle. Certains jeunes nous parlent en consultation de parents qui leur imposent des choix d'études, par exemple, ou de choix de partenaires. Ils choisissent à la place de leurs enfants, sans qu'ils en tiennent compte des intérêts de leurs enfants, des personnes concernées. Les traditions familiales ne sont plus forcément aussi des valeurs positives. Elles l'ont toujours été, mais dans certaines familles, elles ne le sont pas. Tout simplement parce que le père ou la mère, eux-mêmes, ont du mal à appliquer ces fameuses valeurs positive.
Ouais. Donc à être des modèles pour leurs enfants.
À être finalement. Des modèles pour les enfants.
Est-ce que les jeunes ont définitivement tourné la page et sont devenus plus réalistes pour leur avenir, pour leur devenir ? C'est ça qu'ils veulent finalement ?
Je ne dirais pas qu'ils ont définitivement tourné la page, mais même s'ils n'ont pas définitivement tourné la page, ils l'ont en tout cas tourné pour un bon moment. Peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Ils veulent explorer, ça c'est sûr, ils veulent explorer autre chose que ce que leurs parents vivent ou sont confrontés. Ainsi va de la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est comme ça. C'est une triste réalité, entre guillemets. La curiosité est une sorte de virus qui gagne tout individu. Et on n'y peut rien. Peut-être que les choses changeront un jour, quand on comprendra réellement ce qui nous apporte un mieux-être et une sorte d'envie à sauvegarder certains trésors de nos parents. Les jeunes veulent aussi tout simplement vivre plus heureux, peut-être même plus heureux que leurs parents.
Plus individualistes.
Plus individualistes. Et ne croient pas forcément que le bonheur de leurs parents est le leur, est le même qu'ils convoitent ou défendront tout le reste de leur existence. Ils ont leur propre conception du bonheur. Mais seul l'avenir nous jugera.
Alors, un conseil incontournable, Ibrahim Haïdara.
Oui, incontournable, c'est que les parents doivent se dire qu'ils ont intérêt à démontrer à leur progéniture, à leurs enfants, l'utilité d'une chose, d'une valeur traditionnelle, par exemple, plutôt que de l'imposer sans être soi-même convaincu de la réussite.
Et bien voilà, le conseil de la semaine. Merci beaucoup, Ibrahim Haïdara. Ces conseils, ces analyses sont à retrouver sur les plateformes de téléchargement, le podcast Parents, Enfants d'ici et d'ailleurs. Et si vous avez un conflit dans la famille, bien sûr, vous pouvez nous écrire sur le compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41 pour les voisins et les voisines. Et demain, 7 milliards de voisins, entreprendre en Afrique avec le coach Didier Akwété. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac, Donatien Cahu. Et bien sûr, vous pouvez aussi podcaster toutes nos émissions du lundi au vendredi sur les plateformes de téléchargement. À demain les voisins et les voisines.
« 7 milliards de voisins, c'est fini !»